Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
On sait que le nerf de la guerre, hein, dans cette lutte contre la COVID-19, ça va être le jour où on va trouver un vaccin. Vous savez peut-être qu'il y a un groupe d'experts, qui conseille le gouvernement fédéral pour l'achat de vaccins contre la COVID-19. Ce qu'on savait pas, c'est que beaucoup de gens qui siègent sur ce comité-là sont en conflit d'intérêts parce que, croyez-le ou non, ils ont des liens avec les grandes compagnies pharmaceutiques. Alors, la raison pour laquelle on le savait pas, c'est que ces gens-là déclaraient leur conflit d'intérêts au gouvernement, mais que cette information-là n'était pas rendue publique. Quel manque de transparence! Heureusement, il y a des journalistes qui ont fouillé l'histoire et qui ont sorti ça. Donc, très bientôt, on va pouvoir savoir exactement quels sont les conflits d'intérêts de ces gens-là. Et quand j'ai vu ça, les mots vaccin, COVID-19, conflit d'intérêts, j'ai tout de suite pensé à mon ami Amir Kadir. Je dis mon ami parce que on aime ça se coltailler à la radio, mais souvent on parle de ça, le Big Pharma. Donc je me suis dit, j'ai hâte de voir ce que Amir en pense. Il est microbiologiste, infectiologue au Centre hospitalier Pierre Le Gardeur. Monsieur Kadir, bonjour.
Bonjour Madame Desrochers.
Alors, j'ironisais sur le fait que des fois on se coltaille à la radio, mais il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que les intérêts pharmaceutiques sont parfois très inquiétants. Et quand on apprend qu'il y a des experts qui conseillent le gouvernement, qui ont des conflits d'intérêts gros comme le bras, c'est rien pour nous rassurer, Monsieur Kadir?
Madame Durocher, d'abord, je suis pas nécessairement ici, fâché après ces gens qui ont des liens avec l'industrie pharmaceutique, mais avec les gouvernements qui, depuis 30 ans, ont diminué les budgets de recherche, se sont retirés du domaine de recherche pharmaceutique et, en général, les budgets de recherche ont considérablement diminué et on a laissé la place à la subvention, au financement privé de la recherche. Alors, que doivent faire les chercheurs de pointe qu'on a formés dans nos meilleures universités qui doivent travailler à découvrir des choses, à développer des nouveaux diagnostics, de nouveaux traitements, ben ils se tournent vers l'industrie pharmaceutique et reçoivent des budgets et des financements qui fait que, oui, et malheureusement, cette politique des gouvernements introduit une perversion qui fait que, de manière systématique, les meilleurs chercheurs de pointe qui réussissent à aller chercher ces subventions du privé deviennent compromis en quelque sorte, ça introduit des biais, même si c'est pas toujours conscient, des biais inconscients dans le choix de leurs recommandations, dans la pente que prend leur recherche, et c'est là qu'on se retrouve dans des situations inusitées où le gouvernement veut avoir les meilleurs experts pour les conseiller, mais les meilleurs experts, ben, c'est ceux qui sont allés chercher les financements privés parce qu'il y avait plus de subventions gouvernementales ou très peu. Et donc, s'il y a quelque chose à blâmer là-dedans, c'est le sous-financement de la recherche, ces politiques néolibérales qui, pendant 30 ans, ont consisté à dire ben, le gouvernement ne peut pas occuper la place, on n'a pas de sous, on ne peut pas taxer les plus riches, donc on va laisser le privé financer tout ça et orienter la recherche.
Je comprends tout à fait, et votre nuance est très importante, et je suis très contente que vous la fassiez, parce qu'en effet, on n'est pas là aujourd'hui pour blâmer des individus, c'est plus pour se questionner sur le manque de transparence. Comment se fait-il que ces gens-là se sont entre eux déclaré leur conflit d'intérêts, mais que cette information-là n'ait pas été rendue publique? C'est plus que gênant, Monsieur Kadir. Pour une fois, je vais être d'accord avec vous. C'est que c'est un scandale que on nous ait caché ça. Parce que c'est comme si on disait, on va faire rentrer le loup dans la bergerie. Les moutons, ils ont pas le choix. Je veux dire, ils ont pas le choix de faire affaire avec le loup. On est d'accord là-dessus.
Oui. D'illustrer quelque chose. Oui. Par exemple, dans toute l'histoire entourant l'hydroxychloroquine et Gilead, avec le remdesivir. On m'a entendu dire que le remdesivir, là, il n'y a pas eu plus d'efficacité ou d'intérêt véritable démontré pour le remdesivir, avec des toutes petites études qui ont démontré dont on a changé les endpoints, c'est-à-dire les effets recherchés en cours de route pour avoir de bons résultats, publier quelques papiers, puis tout de suite, ben, plusieurs scientifiques qui sont de près ou de loin attachés à ces intérêts pharmaceutiques ou des journaux, des grands journaux scientifiques qui reçoivent
de l'Lancet,
des annonces.
De l'Lancet, oui.
Oui, ben le Lancet s'en est un, mais tous les autres qui reçoivent des pages et des pages d'annonces des produits de Gilead, ont eu un billet de sélection favorable pour ça. Et pour quelques erreurs méthodologiques initiales du professeur Raoult, on a discrédité tout le reste de la recherche qui venait de la Chine, de l'expérience des pays qui l'ont utilisé. Je ne dis pas que l'un est supérieur à l'autre, mais l'un n'est pas inférieur à l'autre, de mon point de vue, d'après tout le travail que je fais dessus depuis 6 mois. Mais tout le monde le constate, les praticiens le constatent, ils sont un petit peu... Ils sont dans l'interrogation, ils se demandent, mais bon sang, comment ça se fait que les autorités appuient le remdesivir puis discréditent avec autant de force l'hydroxychloroquine? Ben, là vient ce biais systémique, qui n'est pas le choix individuel de tel et tel individu, mais c'est à cause de toute cette part trop grande de l'industrie privée dans la détermination de l'orientation de nos choix.
Donc aujourd'hui, vous continuez à vous intéresser à l'hydroxychloroquine, vous continuez...
Ben, pas tellement, parce que malheureusement, il n'y a pas de miracle, ni dans le remdesivir, ni dans l'hydroxychloroquine. Chacun a probablement sa place à des moments très, très particuliers, mais on sait que dans les pays où ça a été largement utilisé de manière beaucoup plus libérale, comme au Portugal, au Maroc, en Inde, en Chine... Dans les pays asiatiques, la mortalité est plus basse que dans les pays qui l'ont interdit, même d'usage comme la France ou la Grande-Bretagne.
Mm-hmm. Donc c'est sûr que là, ce que ça fait, en fait, cette situation-là, vous avez raison, la situation avec l'hydroxychloroquine, l'étude qui a été publiée, qui ensuite a été retirée, ce secret qui entoure les conflits d'intérêts des gens qui siègent sur le comité qui doit conseiller le gouvernement sur le vaccin, vous avouerez avec moi que ça donne quand même certaines munitions à ceux qu'on appelle les complotistes ou les conspirationnistes. Et c'est plate parce que ce sont des gens...
Mais
ça nourrit la méfiance, voilà. Et c'est très dommage parce que c'est trop facile de dire tous les gens qui sont anti-masques, c'est des coucous, c'est des fous furieux, c'est des gens qui sont pas crédibles. Ben des fois, tu sais, une horloge arrêtée à raison 2 fois par jour là, des fois, il y a quand même des choses où on se dit il y a peut-être pas des complots partout, mais il y a des apparences de conflits d'intérêts, en tout cas.
Moi, je n'ai jamais blâmé les gens qui sont contre ça et toutes les accuser d'être des abrutis, parce que, bon, il y a des gens qui sont carrément un peu en dehors de la traque, mais le fait qu'il y a des questionnements, je trouve ça sain. Il faut discuter, il faut garder les canaux de communication ouverts. Ce qui est certain, je suis d'accord avec vous, et c'est là qu'il faut faire la différence. Il n'y a pas un grand complot planétaire où des milliers de gens seraient en train de nous arranger quelque... Non! Le seul complot permanent et constant, c'est le complot des intérêts. Il y a de l'ignorance, il y a des cacheteries, il y a des gens qui essayent, chacun de leur barre, de tirer la couverture de leur côté. Et plus on est puissant, plus on s'appelle des grosses compagnies pharmaceutiques ou des grosses banques, mais on a la capacité de contrôler le message, d'influencer les décisions. Donc, c'est à travers tout ça qu'il faut y voir clair. Et c'est pour ça que les gouvernements aujourd'hui doivent faire preuve de plus de transparence possible, ce qui nous revient au gouvernement fédéral. Il me semble que dès le début, le gouvernement aurait dû annoncer ça. Écoutez, on fait notre travail. Voici des gens qui ont des conflits d'intérêts, mais on a mis ces mécanismes, 2-3 mécanismes
voilà,
particuliers pour s'assurer que leur lien avec les compagnies pharmaceutiques n'influe pas indûment sur les choix.
Voilà. Si dès le départ Ottawa avait été transparent, on serait pas aujourd'hui dans une situation où il y a plein de gens qui disent oh mon Dieu, tu sais, on essaye. C'est qu'en fait, ce que les conspirationnistes disent, c'est le gouvernement nous cache des choses. À partir du moment où le gouvernement fait en effet exactement ce que les conspirationnistes disent, ça ne fait qu'alimenter, et c'est ça vraiment très très triste. Monsieur Kadir,
en fait,
vous avez
l'histoire du remdesivir puis l'étude du Lancet puis cette histoire là, ce genre d'histoire là, ça nourrit la méfiance. Faut vraiment que les décideurs publics changent d'attitude et soient plus prudents de ce point de vue là.
Oui.
Alors Monsieur, le monde va finir par déconnecter.
Ben voilà, tout à fait. Ben c'est quelque chose qu'on dit dans ça s'applique dans différentes sphères de la société aussi. Si on n'est pas transparent avec les gens, par exemple sur les politiques d'immigration, sur toutes sortes de sujets, qu'on ne dit pas les vraies choses à la population, mais la population se tourne vers des extrémistes, vers des gourous qui vont leur promettre toutes sortes de choses. La transparence, c'est quand même ce qu'on la chose de base qu'on demande au gouvernement. Monsieur Kadir, vous avez accepté très gentiment nous parler aujourd'hui. Je sais que votre temps est compté, mais il y a un dossier. Vous avez accepté, par contre, de nous parler parce qu'il y a une chose dont vous vouliez absolument que vous vouliez évoquer. Voilà. Bon, alors allez-y parce que ça c'est important. Je veux vous entendre là-dessus.
Très bien. Donc, pour contrôler la pandémie, on doit faire preuve de prudence partout. Maintenant, on sait, les données s'accumulent pour nous indiquer que l'infection se transmet aussi, et peut-être de manière assez importante, certains prétendent même de manière plus prépondérante par voie d'aérosol aérienne que le contact, les gouttelettes, etc. Donc, le 2 mètres, c'est bien beau, se laver les mains, c'est bien beau, même porter les masques, c'est bien beau, mais il faut, dans les endroits clos, où il y a quelques-uns de toute façon qui porteront pas le masque ou vont l'enlever pour se parler, comme dans les classes, s'assurer qu'il y a une bonne filtration ou aération. À défaut d'avoir des systèmes d'aération dans toutes nos écoles, parce qu'on les a pas, hein, on le sait. Mm-hmm. Je sais pas combien de classes, je pense qu'on a 30 000 classes au Québec. On n'a pas des systèmes de ventilation pour avoir un échange de 5 échanges par heure d'air dans nos classes. Ben, il faut les ouvrir ou il faut installer des filtres. Il faut faire quelque chose parce que si on ne s'assure pas de ça bientôt, avec l'augmentation du niveau d'incidence et du nombre de cas, ben, les classes pourraient devenir des foyers de propagation et de super propagation. Donc, il faut qu'on y réfléchisse. Je sais qu'il y a des experts qui sont en train d'essayer de faire des recommandations au gouvernement, mais j'en appelle à la responsabilité du ministère de l'Éducation. Il faut pas que son plan soit muet là-dessus. Qu'est-ce qu'on pense faire de la bonne ventilation, de la qualité d'air dans les classes? Parce que si on n'a pas de moyens de bien ventiler, ben on va favoriser la propagation.
Et est-ce que l'option d'imposer le masque en classe, qui est une option qui est invoquée par beaucoup de spécialistes, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous recommandez, M. Kadir?
Ça pourrait être un de ceux-là, mais ça ne peut pas être que ça, parce que il y a un certain niveau à partir de, je sais pas, 8 ans ou 10 ans, en bas de 10 ou 8 ans, on sera probablement pas capable, ou enfin, il faut y réfléchir, et donc, on peut penser à d'autres moyens de mitigation, donc, ouvrir les fenêtres plusieurs fois durant la classe, augmenter le chauffage pour pouvoir permettre ça ou installer des échangeurs d'air avec des filtres. Il y a plusieurs moyens techniques, mais il faut y voir.
Absolument. Bon, on écoute,
merci,
on espère
Madame
que...
Merci, Madame Durocher, de votre attention.
Merci beaucoup, docteur Amir Kadir, donc, qui prenait le temps de nous parler aujourd'hui. Il est bien gentil. Écoutez, juste avant d'aller en entrevue, il y avait un appel des soins intensifs, donc c'est très, très apprécié de sa part. Donc, Amir Kadir, qui est microbiologiste, infectiologue au Centre hospitalier Pierre Le Garda. C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation, la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. On se retrouve demain.
Cube Radio.